Chapitre 16. Le duc d'Ambury. Monsieur Smith jouait au golf à Walton Hills lorsqu'on lui télégraphia les résultats de l'ouverture du coffre. Il revint immédiatement en ville, alla chercher son collègue Ella et l'emmena à luncher à Chris Hotel. « Toute l'affaire est maintenant très claire, lui dit-il. La disparition de Monsieur Farrington s'explique. Et je lis ses motifs comme écrits sur une enseigne lumineuse. Oh, je n'en puis pas dire tout à fait autant, répondit Ella. Alors je vais démonter devant vous cette superbe machination, reprit M. Smith, en reprenant des hors-d'œuvre. Farrington savait depuis fort longtemps que John Dofton, père de Frank, était l'héritier de Tollington. C'est pourquoi il alla s'installer à Bradley, où avait-il vécu les Dofton. Le couple était mort et la famille était uniquement représentée par George Dofton, l'explorateur, fiancé avec Lady Constance Dex. Sachant que la fortune devait être également partagée entre l'héritier et son épouse, il fit de son mieux pour s'attirer les bonnes grâces de Lady Dex. Mais Dofton était veuf et avait un petit garçon qui devait être en pension quelque part, et il est fort possible que Farrington n'en connût pas l'existence. Lorsqu'il l'apprit, il dut sans doute changer ses plans. Il fallait faire rompre les fiançailles et échafauder des plans pour s'emparer du plus grand nombre possible des millions en déshérence. Ce dut être à ce moment-là qu'il fut nommé tuteur de Doris Gray, et comme il avait de l'affection pour cette jeune fille, ce qui semble avoir été l'unique bon sentiment de sa vie. Il vit quelle chance admirable lui était donnée là. Il eut l'idée diabolique de supprimer George Dofton et de marier son fils avec Doris. Tous ses actes subséquents le démontrent surabondamment. Mais il dut apprendre assez récemment, comme les autres exécuteurs testamentaires de Tollington, la clause limitant le délai où l'on pouvait découvrir utilement l'héritier. Il essaya de pressentir Doris, qui accueillit assez froidement ses ouvertures. Puis il eut l'effronterie de charger Frank de se découvrir lui-même. Ce faisant, il poursuivait un double but. Il gardait contact avec le jeune homme et montrait aux autres exécuteurs testamentaires qu'il s'occupait de l'affaire. Rien de tout cela ne lui servit beaucoup. Le moment où il devait rendre des comptes à sa pupille coïncidait presque avec l'époque où expirait le délai utile pour la découverte de l'héritier de Tollington. Il fallait risquer le tout pour le tout, et il devait avoir encore d'autres raisons pour faire semblant de disparaître. Il savait que je me méfiais de lui, que Lady Dex le dénoncerait dès qu'elle aurait la preuve de sa responsabilité dans la mort de son fiancé. Et surtout, une mort simulée lui permettait de faire cet excentrique testament, contenant comme clause impérative le mariage immédiat de Doris Gray avec l'héritier de Tollington. Je suppose qu'elle a su assez tôt qu'il n'est pas mort. Pris de panique à la vue du retard qu'elle mettait à accomplir ses vœux, il a dû la presser pour cela, lui laisser savoir une partie de la vérité. Après cet exposé, M. Smith détourna la tête et considéra d'un air songeur le flot humain qui roulait sans interruption sur les trottoirs de Piccadilly. « Je puis arrêter Farrington demain, si je veux, reprit-il. Mais je voudrais d'abord tenir tous les fils de cette organisation. » « Et Lady Dex ?» demanda Ella. « En attendant, elle doit courir de graves dangers. » Monsieur Smith secoua la tête. « Oh, si elle n'est pas morte à l'heure actuelle, on l'épargnera sûrement. Farrington a pu la faire assassiner tout de suite, s'il a voulu, mais j'incline à croire qu'il la retient prisonnière dans quelque chambre souterraine de la maison magique. Pour arriver jusqu'à elle, il nous faut attendre une occasion favorable, mais soyez sûr que je ne la laisserai pas échapper et que je ne dormirai que d'un œil tant que je n'aurai pas extirpé du pays et arrêté jusqu'aux plus humbles comparses, cette bande de malfaiteurs de haut vol. Et Poltavo, oh Poltavo, lui, peut attendre. Il aura son compte aussi. Les deux détectives demandèrent l'addition et sortirent. Ils traversèrent Piccadilly. À ce moment, un individu qui avait paru flâner par là, en regardant les vitrines, les observa du coin de l'œil et se mit à les suivre. Derrière lui, un autre homme, qui lisait tranquillement son journal, apercevant cette manœuvre, se mit à le suivre aussi à quelques pas. M. Smith et Ella tournèrent le coin des arcades de Burlington et atteignirent Cock Street. À part un ou deux piétons, cette rue était déserte. Alors, le premier individu qui suivait les détectives hâta le pas et sortit de sa poche un petit objet métallique qui brilla un instant. Mais l'homme au journal était derrière lui et d'un bond lui sauta dessus, lui serra le cou et appuyant le genou à son dos, le renversa en arrière et le désarma. M. Smith et Ella, entendant la lutte, revinrent prêter main forte au policier qui avait prévenu le geste de l'assassin. Celui-ci était un petit homme brun aux brillants yeux noirs, portant une légère moustache frisée, un pur méridional. Les policiers le fouillèrent, lui passèrent les menottes et l'emmenèrent en taxi au poste de Vine Street. Trouvé porteur d'un long stylet outre son revolver, l'auteur de la tentative de meurtre sur la personne du chef de la sûreté garda le mutisme le plus complet. Dans une de ses poches, on trouva un morceau de papier contenant en italien des renseignements sur les habitudes de M. Smith, les heures où il passait à certains endroits, etc. « Mettez-le en cellule, » dit M. Smith. « Oh, je crois que nous allons faire de bonnes découvertes. Si Poltavo n'a pas trempé dans cette affaire, je serai grandement surpris. » Le lendemain matin, le prisonnier fut réveillé de bonne heure et conduit en auto jusqu'à Douvres. Là, deux agents de la sûreté prirent pour lui un billet pour Calais, lui remirent 100 francs et lui dirent qu'une haute influence ayant intercédé pour lui, les autorités anglaises se bornaient à l'expulser du territoire. L'homme parut fort heureux de l'issue de cette affaire et, dès son arrivée à Calais, employa la plus grande partie de ses 100 francs à expédier un long télégramme à Poltavo. Et ce fut à M. Smith, qui avait donné des ordres en conséquence, que le télégramme fut d'abord remis. Il le lut soigneusement, puis le fit porter à la direction des postes avec une note disant que le message pouvait être remis à son destinataire. Il savait ce qu'il voulait savoir. Poltavo reçut son télégramme et frémit en voyant quelle imprudence s'était porté son agent. Tout le jour, il prépara sa défense et ses explications pour le cas où la police aurait eu connaissance du texte envoyé en langage clair par l'imbécile qu'il avait employé. Il était prêt à la riposte lorsque, vers le soir, M. Smith se présenta chez lui. Mais, à son grand soulagement, le chef détective venait l'entretenir d'une toute autre question. Il s'agissait de la jeune Madame Dofton et de sa fortune si bizarrement évanouie. « Mais je jouissais de la confiance de M. Farrington, » répondit Poltavo, tout heureux de voir que cette visite n'avait rien à faire avec le malheureux télégramme. « Cependant, j'ai été fort surpris que le coffre fût vide. » Cela a dû être terrible pour la jeune femme. Elle est maintenant à Paris avec son mari, ajouta-t-il. Oui, dit M. Smith, je serais heureux d'avoir leur adresse. Pouvez-vous me la donner? Oh, certainement, avec plaisir, répondit le comte en cherchant son livre d'adresse. Oui, il se peut que j'aille moi-même à Paris demain, reprit le détective, et j'irai les voir. « Il n'est peut-être pas très correct d'aller faire visite à de jeunes mariés, mais les membres de la police ont des privilèges. » Ils échangèrent des sourires entendus et polis. Poltavo exultait. Où il craignait fort le chef de la sûreté, le savait perspicace et habile. mais ne le croyez pas très rusé. Il ne se douta pas une minute que cette visite n'avait d'autre but que de le rassurer, d'endormir sa méfiance afin de mieux exécuter le grand coup de filet que méditait le chef détective. Après quelques banalités, M. Smith prit congé. De sa fenêtre, Poltavo guetta le départ du taxi de M. Smith, puis, se frottant les mains, revint à son bureau. Il ouvrit un tiroir au fond duquel, sous une planchette à ressort, s'ouvrait une cachette fort bien dissimulée. Il sortit de là plusieurs documents, dont plusieurs portaient les armes du duc d'Ambury. D'autres, des lettres surtout, étaient d'une écriture féminine, d'une orthographe douteuse et couverte de taches d'encre. Mais, dans leur ensemble, ces papiers ne laissaient aucun doute sur le passé romanesque du duc. Au jour de son exubérante jeunesse, étant en garnison à Gibraltar, il avait contracté mariage sous un faux nom avec une belle espagnole de basse extraction. Le certificat de mariage figurait dans le dossier de Poltavo. Sans doute, le duc, plus âgé et une fois en possession de son titre et de sa fortune, avait regretté cette folie, car peu d'années plus tard, il épousait la troisième fille du comte de Westchester, après avoir pris la peine de faire dissoudre sa première union. Il y avait là, pour Poltavo, une magnifique opération à faire. Le duc d'Ambury était un des hommes les plus riches de l'Angleterre. Il possédait des quartiers entiers de Londres et avait des terres un peu partout. S'il y avait au monde quelqu'un qui pût être fortement rançonné, c'était bien lui. L'épouse espagnole était morte à l'heure actuelle, mais elle avait donné au duc un fils dont l'existence menaçait de compromettre non seulement l'honneur du nom de Dunbury, mais aussi tout le système des successions. Tous les faits étaient en la possession de Poltavo. L'opération de chantage était fort avancée déjà, puisque la réponse du duc avait déjà paru dans les annonces du Times. Réponse favorable s'il en fut. Il ne proposait pas l'entreprise d'homme d'affaires, ne menaçait pas d'aviser la police. Il consentait à chanter et à faire un gros sacrifice pour sauver sa maison du déshonneur. Il n'y avait plus qu'à fixer le chiffre. Poltavo avait décidé de demander 50 000 livres. Avec cela, il pourrait quitter l'Angleterre, abandonner son périlleux métier et vivre à sa guise. Sans doute, d'après ses arrangements avec Farrington, il devait lui remettre les 2/3 de toute somme perçue, mais il ne se proposait nullement de s'acquitter de cette promesse. Farrington, réduit à se cacher, était pratiquement entre les mains de Poltavo. Celui-ci avait déjà touché quelque 10 000 livres pour différentes affaires, et il n'avait répondu que par le mépris aux lettres menaçantes du docteur Fall, qui lui réclamait la part de la maison. Il se sentait maître de la situation. Il avait déjà placé des capitaux à son nom dans une banque parisienne, et il se préparait à arrondir définitivement sa fortune avec l'or à extorquer au duc d'Ambury. Il sonna. L'homme qui répondit à cet appel était un Italien à face sinistre que Poltavo employait un peu comme domestique et surtout comme agent dans ses opérations louches. « Carlo, lui dit-il, Antonio a été arrêté, puis reconduit à la frontière et envoyé à Calais. » « Je sais, signore, répondit l'homme. Il a eu de la chance. J'ai eu très peur. » Poltavo sourit. « Oh, la police anglaise, dit-il à de bizarres façons d'agir. Antonio est arrêté au moment où il essaie de nous débarrasser du chef de la sûreté, et on se borne à l'expulser. N'est-ce pas stupide? En tout cas, Antonio ne doit pas chercher à revenir, car alors... Si naïve que soit la police, elle l'arrêterait pour de bon. Je lui ai télégraphié d'aller m'attendre à Paris. Et à ce propos, Carlo, si jamais vous vous trouviez dans la même situation qu'Antonio, faites-moi le plaisir de ne pas me télégraphier. Assurément, signor, je ne le ferai pas, car je ne sais pas écrire. Excellent défaut, s'écria Poltavo. Prenant une lettre sur sa table, il ajouta « Eh bien, voici un message que vous remettrez à une personne qui vous attendra au coin de Branson Square, comme je vous ai déjà indiqué en détail. Cette personne vous donnera en échange une autre lettre. Après cela, vous ne reviendrez pas directement ici, mais vous irez chez votre frère à Gritshaven Street. Et devant sa maison, vous verrez un homme revêtu d'un grand manteau. Vous passerez tout près de lui et en le frôlant, vous glisserez votre lettre dans la poche de son pardessus. Avez-vous bien compris ? Parfaitement, signor. Bien, allez, que le ciel vous protège, dit l'ironique Poltavo, en remettant à son agent le message qui allait, selon lui, porter la terreur et la consternation dans l'âme du duc d'Ambury. Il était déjà tard ce soir-là, lorsque Carlo Fregetti descendit Gritshaven Street, déserte à 7 heures. Son frère, qui habitait là, était un respectable ouvrier, employé par une compagnie d'asphalte. Près de la porte se tenait en effet un inconnu qui semblait attendre quelqu'un. Carlo passa si près de lui qu'il le heurta du coude. Il s'excusa et, ce faisant, glissa sa lettre dans la poche du promeneur. Mais, relevant la tête, il chercha à distinguer les traits de cet étranger. C'était Poltavo lui-même. La rue n'était pas très éclairée, il n'y avait aucun passant à proximité, et il eut fallu, en outre, de bons yeux pour s'apercevoir du transfert de la lettre dont Carlo était porteur. Poltavo alla jusqu'au bout de la rue, sauta dans un taxi qui l'y attendait et revint chez lui, non sans avoir plusieurs fois changé de voiture. Une fois enfermé dans son cabinet de travail, il ouvrit sa lettre d'une main fébrile. Le duc allait-il consentir à verser la somme énorme qui lui était demandée? Et dans la négative, combien faudrait-il en rabattre? Mais les premiers mots lui enlevèrent toute appréhension. « Je veux bien vous donner ce que vous réclamez pour prix des documents qui sont dans votre possession, mais je vous considère comme un forban et un bandit. Puisque vous avez tant d'inquiétudes au sujet de la sûreté et du secret de l'opération, je choisirai pour vous apporter l'argent un vieil ouvrier de ma propriété du Lancashire, sur lequel on peut compter et qui ignorera d'ailleurs ce dont il s'agit. » Il vous remettra la somme en échange de vos papiers, notamment du certificat de mariage. À vous de choisir un lieu de rendez-vous qui vous plaise, et j'y enverrai mon homme. » Poltavo eut un sourire de ce triomphe en repliant cette lettre. « Ah, maintenant, se dit-il à mi-voix, mon cher Farrington, je n'ai plus besoin de vous. Je vous quitte. Adieu. Portez-vous bien. » 50 000 livres, Poltavo, mon ami, t'es pas un imbécile. 50 000 livres, quelle joyeuse vie, on va mener avec ça. Félicitations. Dans son joyeux délire, il n'oublia pas de songer sérieusement au lieu de rendez-vous final. C'était très important, bien que sa victime se montrât très désireuse d'en finir au plus vite sans scandale. Il fallait se méfier jusqu'au bout. Ce vieil ouvrier agricole que le duc enverrait serait certainement de bonne foi, mais encore, où convenait-il de le convoquer? Lorsque Poltavo avait enlevé Frank Doughton, il avait l'intention de le faire conduire dans une petite maison qu'il avait louée dans le quartier d'East End. Le voyage à la maison magique n'avait eu pour but que de faire porter les soupçons sur Farrington. Mais l'auto devait ensuite revenir à Londres. Une fois Frank enfermé et endormi au moyen de puissances soporifiques, il devait être détenu jusqu'à l'expiration du délai que Farrington avait stipulé pour son mariage. Mais la question de la réception des 50 000 livres était autre. Il ne fallait pas qu'elle ait lieu dans un endroit facilement cerné par la police, mais en un endroit découvert, d'où l'on pourrait voir de loin. Et pourquoi pas Bradley? Ce n'était pas une mauvaise idée. Si on avait des soupçons, les recherches seraient fatalement dirigées du côté de la mystérieuse maison magique, et en cas d'alerte, Poltavo pourrait s'y réfugier. Il n'aurait qu'à laisser croire à Farrington qu'il travaillait pour lui. Oui, Bradley était tout indiqué. Et les champs incultes du sud du village conviendraient parfaitement. Poltavo prit ses dispositions en conséquence.